Bonjour à tous. C'est toujours une joie pour nous de rendre visite à Figeac. Et ce matin, le texte que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est une histoire connue. Vous allez me dire, quoique on connaît un peu par cœur cette histoire, et pourtant je pense que c'est bien aussi d'y revenir. Et nous allons lire donc ensemble d'abord, dans Jean chapitre 6, cette histoire du pain et des poissons. Donc Jean 6, et je vais prendre au premier verset de ce chapitre. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque de la fête des Juifs était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain, pour nourrir tout ce monde ?» Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, « il faudrait au moins 200 pièces d'argent, » lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tout ce monde ? » ?»« Dites-leur à tous de s'asseoir, » leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. » Ils les ramassèrent donc, et remplir 12 paniers avec ce qui restait des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. Lorsque tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent, « Pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever de force pour le proclamer roi, se retira de nouveau tout seul dans la montagne. 5 pains et 2 poissons. Si peu, pourtant. C'est un incident que nous appelons généralement la multiplication des pains. Et c'est vrai qu'au premier niveau, il serait facile de voir que de la nourriture dans cette histoire. Mais en fait, Jean nous raconte aussi ici l'expérience d'un jeune homme. Alors, il y a très peu d'histoires dans l'évangile de Jean qu'on trouve aussi dans les autres évangiles. Mais exceptionnellement, Jean reprend ici un incident qui a déjà été raconté par Matthieu, par Marc et par Luc dans leurs évangiles. Mais ici, il y a une petite différence, c'est ce que j'appellerais la valeur ajoutée du récit de Jean, et c'est la présence et le rôle de ce garçon. Il n'est pas mentionné dans les autres évangiles, c'est Jean qui dit... Il y avait un petit garçon, un jeune garçon, qui avait 5 pains et 2 poissons. Et à mon avis, nous avons peut-être affaire plutôt à un adolescent ou un préadolescent, comme on dirait aujourd'hui. En tout cas, il était assez grand pour partir tout seul dans la campagne retrouver ce Jésus, pour rechercher ce Jésus dont tout le monde parlait à l'époque. Comme beaucoup de jeunes, il était peut-être motivé par la curiosité, c'est normal. Il était curieux de voir ce prédicateur qui attirait des foules. Vous avez bien remarqué qu'il y avait déjà 5000 hommes et sans doute plus les femmes et les enfants. Donc beaucoup de monde suivait Jésus pour l'écouter. Donc apparemment, il a demandé à sa mère de lui préparer un casse-croûte et il est parti... rejoindre ceux qui suivaient Jésus. Quand je pense à ce jeune homme, je me dis, je suis persuadé qu'en se joignant à cette foule, il n'avait pas du tout l'intention de se faire remarquer. Il n'était pas allé pour ça. Mais il allait apprendre, comme beaucoup depuis, qu'il est toujours risqué de s'approcher du Seigneur Jésus. Parce qu'il a le pouvoir de mettre une vie sens dessus-dessous. Il a le don de changer, de bousculer nos petits plans personnels bien ficelés. Et donc ce jour-là, ce jeune homme allait vivre quelque chose qu'il n'attendait pas à vivre. Et en fin de compte, il va être repéré par André, mais entraîné vers Jésus, sans doute, puisque André dit, il y a ici un garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Et tout à coup, notre garçon, notre adolescent, n'est plus un visage anonyme dans la foule. J'imagine que tout le monde le regarde. D'ailleurs, sans doute beaucoup se disaient, mais pourquoi on le présente lui à Jésus ? Sous-entendu, mais pourquoi pas moi ? Mais c'est lui qui est présenté, il se retrouve face à face avec le Seigneur, et très rapidement, il comprend qu'on lui demande de partager son casse-croûte avec cette foule immense qui était là devant Jésus. Alors, il a peut-être été pris de vertige. Mettez-vous à sa place. A-t-on idée de partager 5 pains et 2 poissons avec 5 000 personnes? Ça dépasse l'entendement. Si on s'arrête un instant pour réfléchir. Ne me demandez pas comment on peut faire 5 000 parts avec 5 pains et 2 poissons. Est-ce qu'on peut en faire 5 000 miettes? Ce que le Seigneur Jésus propose de faire heurte la logique humaine, qui est notre logique, mes amis. Celle qui souvent prend le dessus dans nos réflexions. Et le récit des pains et des poissons est là pour nous prouver, à partir de l'expérience d'un garçon ordinaire, qu'il y a toujours 2 façons de regarder toute situation. Il y a André qui est tout à fait dans la logique, qui dit, mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? C'est rien. C'est si peu. Et puis, il y a la façon de Jésus de regarder les choses et de dire, faites-les asseoir. Et puis, j'agirai. Donc, il y a toujours 2 façons de voir toutes les situations que nous vivons. 5 pains, 2 poissons. Et une foule innombrable. Mais 2 façons de voir les choses, 2 façons de réfléchir, 2 logiques différentes qui débouchent sur 2 façons de vivre. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble ce matin. Le garçon, avec ses sandwichs, a été appelé à choisir. C'était quand même son repas. Qu'est-ce qu'il allait faire? Et nous sommes constamment aussi confrontés à ce choix. Comment est-ce que nous allons regarder ce qui nous arrive et comment est-ce que nous allons vivre des situations que le Seigneur permet dans notre vie? Nous pouvons, et parfois malheureusement nous le faisons, nous pouvons toujours nous en tenir au calcul logique, puis nous débrouiller tant bien que mal. Où nous pouvons ouvrir notre cœur au facteur divin et laisser entrer l'extraordinaire, la grâce, la puissance merveilleuse du Seigneur, parce que lui, il sait changer les choses, même les pains et les poissons, mais aussi les situations, et surtout, il sait changer les personnes. Ce dont nous avons déjà eu 2 témoignages ce matin. Le Seigneur est celui qui change les cœurs. Alors ce garçon, il aurait pu leur dire, moi, vous êtes vraiment gentil, mais vous comprenez, je suis en pleine croissance, j'ai faim, c'est mon déjeuner, vous êtes de grandes personnes, vous allez trouver une solution. Alors moi, je vais aller manger ce que j'ai apporté. Apparemment, il ne l'a pas fait. Et je ne vois pas le Seigneur Jésus l'obliger à donner cette nourriture. Apparemment, il a eu la bonne réaction et a dit quelque chose comme « Seigneur, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais voilà. Voilà ce que j'ai, voilà ce que je peux te donner et je te fais confiance pour le reste, hein, pour tirer le maximum de ce que je t'apporte. » Alors, c'est vrai que là, si on revient à la logique humaine, on pourrait dire qu'il risquait pas grand-chose, hein, il y avait encore à manger à la maison. C'est pas le fait de sauter un repas qui peut lui faire tant de mal. Mais cette histoire nous est donnée pour illustrer à la manière d'une sorte de parabole vécue. Hein, ce que vit ce garçon est une image pour nous parler du fait que toute rencontre avec le Seigneur Jésus est une rencontre radicale et que le Seigneur cherche à nous toucher au fond du cœur. Alors, je remarque parfois qu'aujourd'hui, quand on parle d'annoncer l'Évangile, on a tendance à dire qu'il faut aller doucement. Il ne faut pas trop mettre en avant les exigences de la vie, d'une vie de foi. Et je remarque, en tout cas dans cette histoire et dans d'autres histoires des Évangiles, que le Seigneur Jésus avait une autre approche. Et je suis persuadé que c'est l'approche de Jésus qui répond le mieux aux besoins du cœur humain, bien sûr. Le Seigneur a surpris ce garçon. Et j'aimerais donc m'arrêter ce matin sur les trois surprises qu'il attendait quand il s'est approché de Jésus. Et je pense que finalement, tous ceux qui s'approchent de lui peuvent s'attendre à être surpris. Donc d'abord, il est venu pour recevoir et on lui a demandé de donner. Cette logique humaine dont on a déjà parlé est fortement influencée par notre intérêt personnel. Devant un choix, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que cela m'apportera ? Qu'est-ce que cela m'apportera ? Cet adolescent s'était mêlé à cette foule, sans doute pour faire une sortie. C'était un peu la fête. Tout ça grouillait de monde. Et puis il y avait des choses qui se passaient, il a peut-être retrouvé quelques copains aussi, il allait passer un bon moment, il avait l'espoir peut-être de voir quelques miracles. D'ailleurs, dans le texte que nous avons lu, nous voyons que Jésus avait fait aussi des miracles juste avant. Il avait sans doute aussi entendu dire que ce que Jésus avait à dire était beaucoup plus intéressant que ce que le vieux rabbin radotait à l'école de la synagogue. Donc, il a dit, je vais aller voir. Il était attiré par la nouveauté, comme beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Il est venu pour recevoir. Combien de personnes qui viennent assister aux activités d'une église pour ceux que cela leur apporte. Et il n'y a rien là de critiquable. Ce jeune est venu pour recevoir, comme beaucoup qui cherchent dans l'Église, un accueil chaleureux, un appui, un soutien, une écoute, un coup de main. Et là encore, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais s'il est venu pour recevoir, on lui a aussi demandé de donner. Alors, ce n'est pas parce que l'Évangile, c'est une histoire de donnant-donnant. Hein, ce n'est pas du tout le cas. Mais la logique de Dieu, c'est que pour vraiment recevoir ce qu'il veut nous apporter, il faut d'abord se donner. Il faut qu'on se donne au Seigneur, qu'on se remette entre ses mains, qu'on lui confie ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a à apporter ? Notre petite vie, rien d'autre. Mais c'est ce qu'il nous demande, de venir avec cette vie que nous avons et ensuite, celui qui a fait quelque chose d'extraordinaire et d'étonnant avec 5 pains et 2 poissons nous surprendra, veut nous surprendre, je crois, par ce qu'il peut faire de notre vie, de nos dons, si nous lui faisons confiance. Et la clé qui ouvre ces perspectives, c'est la foi. Par la foi, ce garçon a confié ses pains à Jésus. Il s'est défait de ce qu'il avait. Hein, il a remis tout ce qu'il avait entre les mains de Jésus. Et 5000 hommes, plus, comme j'ai dit, sans doute les femmes et les enfants, ont mangé et ont été rassasiés. On peut bien venir à Jésus pour ce qu'on espère recevoir. Il s'est donné pour nous. Nous l'avons rappelé par le repas que nous avons partagé ce matin. Et il a beaucoup, beaucoup à donner. C'est lui qui nous donne le pardon, la paix, la joie, la direction dans la vie, l'espérance de la vie éternelle. Et on pourrait rallonger la liste. Mais il faut être prêt à nous laisser surprendre par le fait que le Seigneur veut aussi prendre ce que nous sommes, ce que nous avons, pour en faire, comme dans l'histoire, une source de bénédiction pour les autres. Jamais ce garçon, en quittant la maison ce matin-là, aurait pensé que ce que lui allait apporter pouvait faire du bien à cette foule de 5000 hommes plus leur famille. Et pourtant, quelle surprise, quelle bonne surprise de voir ce que le Seigneur peut faire avec le peu que nous sommes et peu que nous avons. Je repense encore donc à ce garçon-là devant le Seigneur avec son petit sac. Il s'est peut-être dit que si Jésus avait faim, il voudrait bien partager avec lui. Il avait bon cœur. C'était une solution possible encore, mais c'est ici que cette question se pose. Hein. Qu'est-ce qu'il était prêt à donner? Tout ou une partie? Et s'il était prêt à partager, il a eu la surprise qu'on lui demande de tout. Alors en toute logique, ce garçon aurait pu dire à Jésus, si tu peux nourrir cette foule avec deux pains, tu peux le faire, enfin, avec cinq pains, pardon, tu peux le faire avec deux. C'est logique. Rien ne l'empêchait. C'était logiquement vrai, selon la logique humaine. Mais l'action de Dieu suit une autre logique. L'action de Dieu suit cette logique-là. Qu'il te soit fait selon ta foi. Personnellement, chaque fois que je relis cette histoire, je me dis, Jésus a nourri cette foule en réponse à la foi de ce garçon. Et c'est aussi un bel témoignage, finalement, que ce garçon pouvait porter par la suite. Et pourtant, combien c'est facile de ne faire que partager sa vie avec Jésus. Seigneur, je t'accorde quand même 1h30 tous les dimanches matins. Et même un petit quart d'heure avant de partir au travail les jours de semaine. Et puis, je te donne une petite proportion de mes revenus aussi. Tu sais que j'aimerais donner plus, mais les temps sont durs. Tous les soirs à la télé, on nous dit que l'inflation augmente. Mais Seigneur, tout le reste de mon temps, de mon énergie, de mon argent, avec mes ambitions, avec mes projets, tout le reste, ben, ça m'appartient à moi. Et on arrive même parfois à se persuader qu'on est généreux avec Dieu en insistant sur ce qu'on donne et en oubliant tout ce qu'on garde. Et aujourd'hui encore, Jésus nous appelle, jeunes et moins jeunes, à nous laisser surprendre par la logique de Dieu, qui demande tout. Tout. Toute notre vie, tout notre être, toute notre confiance, tout. Et c'est à cette condition qu'il fera de grandes choses et fera de nous une source de bénédiction, un instrument de bénédiction pour d'autres. Et je crois qu'il est de notre responsabilité de ne leurrer personne sur ce point. Celui qui ne livre qu'une parcelle de sa vie au Seigneur sera un chrétien terne et un témoin inefficace. Le Seigneur ne veut pas partager notre vie. Il ne veut pas une petite part. Et il vaut mieux même qu'une grosse part. Il veut tout. Il veut nous voir lui confier nos études, notre travail, notre famille, notre situation de couple, ou notre célibat, nos soirées, nos week-ends, nos loisirs, nos fréquentations, nos lectures, et même nos vacances, notre avenir, nos joies, nos peines, pour que toute notre vie soit touchée par sa grâce et reflète sa présence. Et si je peux parler pour moi-même, il y a toujours encore du travail pour que le Seigneur ait toute cette place et ait vraiment toute cette confiance qu'il demande dans tous les domaines de ma vie. Mais à ceux qui hésitent, et quand j'hésite, je me dis que ce n'est pas un pari fou et que depuis que le monde existe, beaucoup d'autres personnes sont passées par là. Et je ne connais personne qui a regretté d'avoir tout risqué dans l'aventure de la foi. Le Seigneur nous appelle à lui donner tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Selon la logique surprenante de Dieu, en effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie, c'est-à-dire celui qui veut garder tout ce qu'il peut pour lui, la perdra. C'est quelque chose que Jésus a mis en avant parce que c'est possible, parce que ça arrive. Celui qui décide de garder ses pains et ses poissons pour lui, ou d'en garder une partie, se condamne à la médiocrité. Mais celui qui perdra sa vie, dit Jésus, à cause de moi, la sauvera. La rencontre avec le Seigneur Jésus est radicale, parce que le défi qu'il lance est de tout donner pour que notre vie porte du fruit, non seulement pour nous, et ça c'est quelque chose qu'il faut que je me rappelle et que nous nous rappelions souvent, c'est pas que pour nous ce que le Seigneur nous demande, c'est aussi pour les foules qui meurent de faim et qui, en attendant, le pain de vie. Et puis, avant de conclure, il me semble qu'il y avait une troisième surprise qui attendait ce garçon. C'est qu'il croyait avoir juste assez pour lui. Et il a vu une foule entière, rassasiée. Et le texte souligne que tous ont été satisfaits. Alors l'humilité est une bonne chose. Et d'ailleurs la parole nous exhorte à ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. C'est vrai, c'est bien. Mais il me semble que trop d'enfants de Dieu ont une idée bien insuffisante et étriquée de ce que le Seigneur pourrait faire d'eux, pourrait faire de nous. Si seulement nous lui demandions de tout prendre en main. N'oublions pas le multiplicateur de Dieu. Voilà ce que le garçon a apporté. Et voilà une partie de la foule qui a mangé. C'est extraordinaire comment le Seigneur peut multiplier les choses. Et à ceux qui se trouvent très moyens, on se dit parfois, mais je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, je n'ai pas plus de courage qu'un autre, je ne suis pas spécialement doué, qu'est-ce que j'ai à apporter ? Il faut nous rappeler que les pains et les poissons du garçon étaient des choses ordinaires. Des choses ordinaires qui ont comblé un besoin extraordinaire. parce qu'on les a mises entre les mains du Maître. Jean souligne d'ailleurs à quel point ces choses étaient ordinaires parce qu'il dit que c'était des pains d'orge. Le pain d'orge à l'époque, c'était le pain du pauvre. C'était le bas de gamme. Mais le Seigneur, il ne regarde pas la qualité à nos yeux de ce que nous apportons. Il nous demande de venir avec ce que nous sommes et puis de le laisser faire et de le laisser nous surprendre. Parce que il veut disposer de ce que nous apportons selon sa volonté et son plan, comme il l'a fait avec ce que le garçon a apporté. Et puis aux églises qui sont petites, il me semble que cette histoire parle aussi. Si peu, on dit, si peu nombreux, si peu de force, on peut le dire aussi parfois. Mais pourtant, avec le Seigneur, autre chose est possible. Je suis persuadé que finalement, ce ne sont pas nos petits moyens qui gênent l'action du Seigneur. Je le dis d'abord pour moi, c'est notre petite foi. Parce que les moyens, comme on a vu, il sait les multiplier. Il sait utiliser le peu que nous avons pour faire de grandes choses, mais qu'il te soit fait selon ta foi. Seigneur, je crois. Viens au secours de mon manque de foi. Je conclue donc. Le garçon croyait avoir juste assez pour lui, mais il a remis au Seigneur ce qu'il avait. Et une foule immense a été nourrie, et bien nourrie. Il y avait même 12 paniers de reste. C'est bien de s'arrêter juste un instant là-dessus, il me semble. Alors, 12 paniers, 12 disciples, on se dit qu'il y avait sans doute un signe pour ces 12 hommes qui avaient tout laissé pour suivre Jésus. Et qui leur donnait là, le signe, il signifiait par ces 12 paniers de reste qu'il allait pourvoir à leurs besoins. Mais ensuite, pour nous, il faut aussi penser que dans ces 12 paniers, il y avait plus, forcément plus de pain que ce que le garçon avait apporté. Il y avait plus de restes qu'il y avait eu de pain au départ. Alors, si ça vous ouvre pas l'esprit et le cœur à la grandeur de Dieu, je ne sais pas ce qu'il faudrait. Il y avait plus de restes qu'il y avait eu de pain au départ. Quand je vous dis que Dieu ne calcule pas comme nous, et il faut nous laisser entraîner à rentrer dans cette logique de Dieu qui n'est pas limitée par nos limites. On ne peut pas s'appauvrir en donnant, en se donnant au Seigneur. Et cela doit nous rassurer et rassurer ceux qui hésitent à s'engager pleinement. Donc il y aura toujours, pour nous, jour après jour, toujours deux façons différentes de voir ce que nous vivons, nos situations. Deux façons de penser, deux logiques différentes et donc deux façons de vivre. Qu'est-ce qu'on va choisir aujourd'hui, demain? Est-ce qu'on va se laisser entraîner dans ce chemin de foi qui nous permet de voir de quoi le Seigneur est capable? Jésus nous invite donc encore par cette histoire, il me semble, à lui renouveler notre confiance. Et pas seulement aujourd'hui, c'est chaque jour qu'il faut renouveler sa confiance à Jésus et à nous laisser surprendre par ce qu'il fera. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole pour nous aujourd'hui. Et merci pour cette histoire que Jean a mise par écrit et qui est venue jusqu'à nous à travers les siècles. pour encore ce matin parler à nos cœurs et nous rappeler de quoi tu es capable. Seigneur, pardonne-nous quand nous te sous-estimons et c'est tellement facile. Pardonne-nous, Seigneur, quand nous oublions combien tu es grand, gracieux et puissant. Merci, Seigneur, pour cette image de ce garçon avec ses quelques pains et ses poissons qui se demandait, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cela? Ses disciples, les disciples de Jésus autour qui disaient aussi, mais c'est si peu devant le besoin. Seigneur, c'était compté sans ton intervention. Seigneur, aide-nous à entrer dans cette logique de foi et d'abandonner nos doutes, nos hésitations pour nous laisser prendre en main par celui qui veut encore faire de nous des sources de bénédiction pour d'autres autour de nous. Seigneur, nous voulons te demander cette ouverture de cœur et cette grâce, de nous laisser toucher par ta parole et de nous laisser attirer dans ce chemin que tu mets devant nous. Te bénissons pour tout ce que tu nous as déjà fait vivre et tout ce que tu nous as déjà fait comprendre, Seigneur. Mais nous voulons aussi encore ce matin confesser notre besoin de toi et de ta main sur nos vies et de ta présence à chaque instant. Merci, parce que tu nous promets cela. Et nous voulons encore, Père, te louer, t'adorer, te bénir et te remercier pour Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen.